Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode, épisode dans lequel je souhaite reprendre la série Journal d'un nomade que tu as peut-être déjà entendu par le passé. Alors je me suis rendu compte que ça faisait, le dernier épisode datait de décembre 2022. Sachant que j'enregistre ceci, on est le 26 octobre 2023, ça fait 10 mois quasiment que je n'ai pas enregistré d'épisode par rapport à cette série-là. Pour te faire un mini résumé, en gros, Journal d'un nomade, c'est quoi pour ceux qui découvriraient? En fait, c'est simplement des épisodes libres dans lesquels je te partage la vraie vie en fait, d'un être humain qui est moi, mais je ne suis pas plus particulier qu'un autre, en quête d'indépendance individuelle, qui aspire à un autre modèle, mais qui a réalisé qu'il est préférable de mieux jouer à celui-ci, parce que ce n'est pas toi ni moi qui allons le changer du jour au lendemain, mais c'est mieux de mieux y jouer que de le subir. Et je suis convaincu qu'en fait, on peut entreprendre en développant une activité pleine de sens qui contribue réellement à l'humanité, aux autres, à avoir aussi une sensation de contribution parce qu'on en a profondément besoin. Donc je te parle librement de nos choix de vie, de nos réflexions, de mes réussites, de mes échecs, de mes stratégies, des choses que je mets en place, des choses qui ne marchent pas. Tout ça en fait pour que tu puisses en retirer un maximum de choses pour ta propre émancipation et tes propres réflexions. Parce que c'est des choses peut-être que j'aurais aimé entendre par le passé, parce que dans l'entrepreneuriat notamment, ben, voilà, il y a plein de phases par lesquelles tu passes et forcément ben, tu as en général plus de choses à retenir de personnes qui sont déjà passées par là que de tes potes qui vont te dire vas-y comment faire alors qu'ils ne l'ont jamais fait eux-mêmes. Bref, l'idée c'est simplement de te partager librement bah, nos aventures, nos choix de vie, voilà, je vais te parler. Alors, dans ce numéro de Journal de Nomade, je te fais juste rapidement la liste des sujets qu'on va aborder. Je vais te parler de notre aventure et de notre voyage en Amérique centrale qui s'est pas du tout, mais alors pas du tout passé comme prévu. Bref, je t'en parlerai, mais on devait passer 3 mois là-bas pour voir potentiellement si ça pouvait nous plaire. C'était une région du monde qui aurait pu nous plaire. Et même si on a été rapatriés à cause de la dengue, il y a quand même eu beaucoup d'apprentissage, donc je t'en parlerai. Ensuite, je vais te parler, et ça, ça avait été décidé avant de partir, de notre choix de s'ancrer et de se poser pour 1 an, voire 1 an et demi à un endroit fixe. Pourquoi aujourd'hui, je pense que beaucoup de personnes finissent tôt ou tard par ressentir ce besoin de s'ancrer, de se poser, et je vais t'expliquer pourquoi et comment on va faire les choses, enfin, comment on a commencé à faire les choses. On parlera aussi de mes projets pro en 2023, des accompagnements, des programmes que j'ai sortis, des résultats, de la délégation, de la rédaction d'un livre pour Larousse aussi rapidement. Et puis, je te parlerai rapidement de notre retour. On est reparti là 1 mois au Portugal avec le van, aller-retour, hein, depuis l'Allemagne, et je te parlerai un petit peu du budget, comment ça s'est passé, et puis des objectifs de fin d'année. Donc voilà, épisode chargé, mais je vais essayer de faire le tout relativement de façon succincte, même si tu sais que c'est rarement possible avec moi. Bref, je te retrouve juste après l'introduction et je te dis à tout de suite. Bienvenue à toi sur le podcast des entrepreneurs nomades. Je suis Jérémy Lantin, auteur du blog jérémybackpacker.com et fondateur de l'académie lesentrepreneursnomades.fr. Fin 2015, je plaquais mon CDI pour en aller simple pour l'Australie. Depuis, j'encourage et j'aide les personnes animées par le voyage à pérenniser un mode de vie nomade en créant et en développant une activité d'avenir qui a du sens pour elles et qui leur permettra d'allier voyage et travail. Ici, on parlera entrepreneuriat, vie nomade, indépendance, émancipation progressive du modèle actuel, toujours dans le but d'avancer ensemble dans ce truc qu'on appelle la vie. Il me reste à te souhaiter une bonne écoute et la bienvenue dans la famille des entrepreneurs nomades. Donc, je reprends, comme je te le disais, après cet épisode de décembre 2022, dans lequel je te parlais de notre départ en Amérique centrale. Je ne vais pas revenir ici sur les raisons de pourquoi on voulait visiter cette région du monde-là, parce que je l'explique dans l'épisode précédent. Pour vraiment faire très court, c'est une région... En fait, déjà, ça fait plusieurs années qu'on réalise avec Teresa. Bon, on a été un peu forcé à ça, mais le fait est qu'on a réalisé aussi qu'on était de plus en plus content à voyager très lentement et à ralentir en fait notre rythme et plus forcément être en mode voyager, en mode backpack. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qu'on a constaté. Mais on s'est dit, vas-y, c'est une région du monde qui nous attire. On avait entendu des potes, alors avec des avis mitigés, mais qui nous parlaient de cette région-là. Donc l'Amérique centrale, que ce soit Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Salvador, etc. Et moi, je t'avoue, j'avais été attiré par cette région-là parce que forcément, comme beaucoup de personnes peut-être parmi vous, on considère l'idée d'expatriation. Enfin, on est assez convaincu qu'on fera potentiellement pas notre vie, que ce soit en Allemagne ou que ce soit en Belgique. Et donc, bah forcément, nous, on explore un petit peu des régions, on réfléchit beaucoup. Je ferai des épisodes, comme je l'ai dit dans un des épisodes précédents. J'ai prévu de faire au moins 4 épisodes sur l'expatriation, tellement il y a de choses à dire et pour te partager vraiment les réflexions, les choses à prendre en compte, les pièges, les mensonges aussi par rapport à ça, les choses romancées. Et là où on en est, nous, actuellement, dans notre réflexion. Et donc, cet épisode, en fait, en Amérique centrale, y a contribué. Et donc, l'idée, c'était de me dire, en fait, que j'avais réalisé que pendant, notamment, la flandémie, pour le dire ainsi, en fait, le Salvador avait diffusé des publicités en fait publiques, donc financées par l'État sur des chaînes publiques qui disaient aérez-vous, aérez les pièces, faites assez de sport, prenez de la vitamine C, si vous avez des symptômes, n'allez pas voir les personnes âgées, ne vous isolez pas, enfin, des putains d'arguments de bon sens en fait qui auraient fait bien plus de bien à la société que toute la propagande et la peur que nous on a vécu en Occident. Et donc je me dis, putain, un gouvernement, en plus, quand tu écoutes parfois un petit peu les discours des personnes au pouvoir dans ces régions du monde-là, bah, c'est des gens qui sont quand même beaucoup plus pro-peuple et qui dénoncent beaucoup en fait l'affluence que les États-Unis peuvent avoir ou que les pays riches vont avoir sur notamment l'Europe et les autres régions du monde. Donc tu dis que ça peut pas forcément être pire que chez nous, tu vois, niveau corruption. Et donc en fait c'est une région où on s'est dit, vas-y, on se fait 3 mois en mode backpack, comme à l'ancienne, comme on a fait en Asie du Sud-Est. On sait que ces 3 mois, c'est que c'était déterminé, ça va nous permettre de voir un peu la région, de profiter, parce que c'est aussi des régions qui sont top pour le surf, le Guatemala, le Salvador notamment, il y a des spots de surf qui sont vraiment cool. Et on s'est dit, bah voilà, on va visiter une région du monde qui est magnifique, qu'on connaît pas du tout, découvrir la culture, et en même temps, on se fera une petite idée, un peu, parce que ça devient un peu un phénomène aussi des expats qui vont un petit peu dans ces régions du monde-là pour potentiellement envisager le fait d'acheter un terrain, tu vois, de pouvoir. Bah, ça reste plus abordable normalement, tu vois, que d'acheter un terrain aujourd'hui dans des pays comme les nôtres. Donc on s'est dit, on va aller jeter un œil. Et donc voilà pour avoir recontextualisé en bref. Donc le plan c'était de faire 3 mois, comme je disais, on commençait par le Guatemala, on arrivait à Guatemala City, de faire ensuite Honduras, Salvador et bon, si on avait eu le temps, mais je pense que ça aurait été short, de faire aussi le Nicaragua. Le fait est que en fait on est arrivé le 31 au soir en fait, parce qu'il y a eu un retard dans la connexion et bref, parce que les billets étaient moins chers ce soir-là. On est arrivé le 31 au soir à 22h30 à l'aéroport de Guatemala City. Heureusement, l'hôte chez qui on avait réservé, trop gentil, vient nous chercher à l'aéroport alors que c'était plus tard que prévu. Et en fait, on a dû passer des checkpoints comme c'était un peu des quartiers de gang, etc. Tu vois, malheureusement, en Guatemala City, on avait déjà appris que c'était pas forcément recommandé, donc on avait prévu qu'une nuit, vu qu'on arrivait quand même en soirée. Et puis, bah, après, le but c'était de repartir, ce qu'on a fait. Ça s'est très bien passé. On s'est endormi avec les feux d'artifice des Guatémaltèques qui célébraient le nouvel an. Mais nous, on était tellement crevés d'un long trajet en avion depuis l'Europe. Et donc, le lendemain, on est reparti, on a remercié l'hôte, etc. Et en fait, on a dû retraverser des checkpoints à pied, tu vois, avec des mecs qui surveillent, qui te demandent de quitter. Et tu dis, t'es juste un touriste et tu vas prendre ton bus. Et on s'est retrouvé ensuite à partir on est passé par Antigua, qui est magnifique, vraiment, c'est un endroit qui est merveilleux parce que c'est un petit village vraiment. Un peu comme je sais pas, comme ça peut faire penser aux Aztèques, tu vois, par exemple, avec des vieilles maisons comme ça colorées, avec des volcans, en fait, qui entourent le village, magnifique. Et donc, en fait, on passait par là, où on avait prévu de revenir pour aller jusqu'au Lake Atitlan, qui est vraiment un lac magnifique aussi, avec des volcans et des petits villages, en fait, qui entourent un grand lac. Et donc, en fait, tu te déplaces de village en village avec des petits bateaux, en fait, motorisés. Et c'est vraiment un endroit incroyable. Je fais très court parce que sinon je pourrais parler très longuement et j'ai envie de te parler de plusieurs sujets. Si vous voulez un épisode complet sur notre expérience en Amérique centrale, je pourrais le faire à l'occasion. Mais je vais faire quand même relativement court pour pouvoir vous parler des autres sujets aussi et vous faire un épisode un peu rattrapé les 10 mois si vous voulez, sans que ça prenne des heures et des heures. Donc jusque-là tout se passe bien, ça reste un pays, enfin c'est un pays qui est magnifique avec énormément de verdure. On a quand même réalisé tout de suite aussi, bah voilà, que la réalité c'est qu'il y a quand même ces pays sont maintenus dans la pauvreté par les pays riches. Si nous on est riches, il y a toujours un équilibre, hein, c'est que eux sont maintenus dans la pauvreté. Donc tu vois quand même que voilà, pour prendre le bus pour aller vers Antigua, etc. Bah tu traverses Guatemala City et tu vois vraiment que les gens vivent dans une pauvreté qui est quand même indécente. Et ça, c'est la réalité, malheureusement. Et donc, on se retrouve voilà, nous, à visiter ces petits villages. Il y avait San Pedro, où on est resté pas mal de temps. Il y a aussi San Pablo, je crois, quelque chose comme ça, qui est le village un peu plus, tu sais, yoga, spirituel, un peu, ouais, hippie. Et du coup, ça coûte beaucoup plus cher. Et du coup, c'est beaucoup moins local. C'est beaucoup plus des expats qui sont dans cette approche-là, spirituelle, machin et tout. Mais voilà, on a fait quand même pas mal de randonnées. C'était, voilà, on a fait aussi des randonnées aussi pour monter au sommet de montagne pour voir des volcans au lever de soleil. Enfin, c'est des expériences vraiment incroyable. Et donc je me suis tapé ma première indigestion, hein, forcément plaisir, retour au voyage, ton corps doit s'adapter. En plus, voilà, ça reste quand même des régions du monde qui ont une autre altitude que chez nous, donc en fait ça reste quand même on réalise pas, mais quand on fait des vols comme ça long courrier, en fait on impose à notre corps quand même un changement drastique d'environnement, et on s'attend à ce que bah, lui s'adapte et se plaigne pas. Et moi du coup effectivement j'ai eu une indigestion à cause d'un endroit où on a mangé je pense, et ça a enchaîné avec une sorte de ouais, mon corps qui a accusé le coup, Teresa aussi, du coup, une sorte de gros rhume, de vraiment coup de fatigue, etc. Donc, comme si le corps devait se reset pour s'adapter, tu vois. Et malheureusement, du coup, on est revenu à Antigua après. On devait faire l'ascension du Fuego pour voir voilà, ce volcan qui est supposément magnifique, notamment au lever de soleil, parce qu'il est souvent en éruption. Mais du coup, on a dû annuler parce qu'on n'était vraiment pas en état. Et donc, on a essayé de descendre en fait à El Paredón, c'est un petit village de surf qui a vraiment 3 heures, je pense, 3h30, ouais. De Antigua, et pour y passer 2 semaines, parce que c'était aussi un des objectifs, c'était voyager quand même plus lentement, se poser au moins voilà, une semaine voire deux quand on pouvait dans des petits villages de surf aussi pour profiter dans des endroits bien moins touristiques. Et malheureusement, ce qui s'est passé par là, je te fais vraiment la version courte. Enfin, déjà aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que c'était différent de ce à quoi on s'attendait. Parce que, par exemple, bah, ce petit village de surf-là, en fait, la chaleur est tellement éreintante et étouffante que je dirais, de 9h30, 10h jusqu'à 16h30, 17h, bah, en fait, il n'y a personne qui y dort parce que c'est trop étouffant, c'est trop chaud. Le sable, en fait, c'est du sable volcanique, donc noir. Et en fait, tu peux littéralement pas marcher, tu vois, sur la plage parce que tu vas te brûler les pieds. Donc, si tu veux surfer ou te poser à la plage, bah, en fait, il faut y aller très tôt le matin ou alors y aller vraiment en fin de journée. Et d'ailleurs, la plupart des gens, en fait, se rassemblent sur la plage progressivement à partir de 17h-18h pour assister au coucher de soleil qui est quand même magnifique. Donc, c'est quelque chose, voilà, à prendre en compte où forcément, la plupart du temps, bah, voilà, t'es dans ta petite hutte, tu vois. Nous, en plus, on voyageait vraiment en mode backpack, tu vois. Notre but, c'était pas de voyager en mode. Enfin, c'était de voyager comme à l'ancienne, quoi, de prendre des logements, des huttes, etc., dans des guest houses, etc., pour rencontrer aussi l'habitant. Et heureusement, j'ai appris des cours d'espagnol parce qu'on a réalisé aussi, je fais une petite parenthèse là-dessus, c'est que là aussi, on a été un peu globalement déçus, c'est de réaliser à quel point les locaux sont pas aussi accueillants que dans d'autres régions du monde. Alors, encore une fois, on est tombé sur des gens gentils, des gens moins accueillants, mais globalement, en fait, si tu parles pas espagnol là-bas, ils vont pas trop te calculer. Et moi, j'avais pris mes 5-6 cours avec justement une des personnes que j'ai accompagnées, Laetitia, qui était parfaitement bilingue et qui donc m'a fait un peu des cours personnalisés pour me préparer au voyage. Et heureusement que j'avais ça parce que ne serait-ce que pour s'arranger pour les transports locaux, etc., si tu parles pas quelques mots, tu comprends pas les chiffres. Ils vont pas faire d'efforts parce que là-bas, vu qu'il y a quand même beaucoup plus de gens qui parlent espagnol dans la communauté du voyage, bah en fait ils vont pas faire l'effort d'apprendre l'anglais, ils en ont pas besoin vu qu'il y a assez de gens qui parlent espagnol et qui voyagent. Donc là où en Asie, tu vois, par exemple, bah, tout le monde fait, enfin tous les locaux et tout, ils vont parfois se couper en quatre pour te montrer comment faire alors qu'ils parlent pas un mot, mais ils vont apprendre un petit peu l'anglais, ils vont te faire des dessins et tout. Là-bas, c'est soit tu les comprends et tu peux leur expliquer des trucs, soit ils vont pas trop se casser la tête. Et ça, c'était un petit peu un truc qu'on a ressenti. Donc c'est une parenthèse, encore une fois, notre expérience n'est pas du tout représentative de celle de tous les voyageurs, mais voilà, c'est un truc quand même qu'on a constaté, on en a parlé avec d'autres voyageurs. Donc c'est quelque chose à prendre en compte aussi si vous comptez y aller. Et donc bref, pour faire court, on a chopé la dingue dans ce petit village, on a remarqué qu'il y avait des moustiques parfois la journée. Mais vraiment, si vous partez dans des régions du monde, les gars, où vous savez que c'est tropical, où il y a beaucoup de moustiques, si je peux vous donner un seul conseil, c'est vraiment couvrez-vous le plus possible parce que les sprays et tout, ça peut être pratique. Alors les sprays, souvent, c'est plein de produits chimiques que vous aspergez sur la peau, donc c'est vraiment pas, à mes yeux, recommandé, mais ça peut être mieux que de choper ce qu'on a chopé. Alors, donc le plus simple, le plus naturel, c'est de vous couvrir, en fait, ou de vous mettre dans des endroits où vous n'allez pas, qui vont être un peu plus humides, tu vois, que la norme. Et nous, parfois, il y avait des hamacs, en fait, sous la hutte. Et en fait, du coup, ça crée un peu d'humidité. Et en fait, ça a attiré les moustiques et on a été piqué et on ne savait pas, en fait, il y a une période d'incubation. Et ce qui s'est passé, pour faire très court, c'est que Teresa a eu l'impression d'avoir une insolation le jour où on a surfé, la veille. Elle sentait pas bien, elle avait des maux de tête, etc. Mais elle était OK. Et moi, en fait, pour faire court, c'est qu'une journée, une fois sur le lunch, on allait manger dans des petits endroits locaux. J'ai dû quitter la table et j'ai fait une sorte de mini malaise, en fait, où Teresa a dû me rattraper. Elle savait pas ce que je faisais. Elle m'a suivi et elle m'a dit qu'il y avait un truc qui allait pas. Et puis elle m'a ramené jusqu'au logement. Ça a été mieux, je me suis mis sous l'eau froide et puis elle m'a amené un truc avec du sucre, tu vois, genre une canette de coca, un truc comme ça. C'est passé, sauf que le problème, c'est que j'ai refait un malaise 3-4 heures après. Et là, c'était plutôt dans la soirée, vers 20h, il faisait noir. Et là, c'était un malaise beaucoup plus sérieux, où j'ai mis une heure en fait à m'en remettre correctement. Et le bon réflexe qu'elle a eu, c'est de mettre mes jambes en fait, tu vois, sur une chaise pliée en l'air et moi, j'étais couché sur le dos. Et là, pendant une heure, je pouvais pas m'asseoir et ça allait vraiment pas bien. Et je ne savais pas ce que j'avais. Et ça, c'était vraiment, tu réalises quand même que, là, ça, je pense que j'en parlerai plus dans le côté expatriation, mais même si malheureusement tout est fait pour détruire, entre guillemets, nos pays, que ce soit les services publics, hospitaliers, éducatifs, etc., on a quand même des accès, enfin, on a quand même des privilèges, d'une certaine façon, c'est pas des privilèges, mais on a quand même un accès, par exemple, quand on a besoin à des soins de santé qui sont immédiats et en général beaucoup plus de qualité que dans ces pays-là, malheureusement. Et donc là-bas, j'ai réalisé que même si j'avais besoin d'assistance, bah, je ne pouvais pas. On était à 3h30 de la première clinique ou du premier établissement médical. Personne à 20h n'allait faire le trajet parce que c'était un tout petit village, tu vois. Et en fait, j'ai dû passer la nuit à ne pas dormir, à pas savoir ce qui allait, à heureusement réaliser que ça allait un peu mieux après une heure ou deux. Mais j'ai clairement pas été capable de dormir. J'avais de la chair de poule non-stop, des bouffées de chaleur, j'allais vraiment pas bien, je savais pas ce que j'avais. C'est ça, c'est le pire, c'est quand tu sais pas, tu vois. Je pense que le pire, c'est quand tu sais pas. Et Teresa aussi était paniquée pour moi parce qu'elle allait pas forcément bien non plus, mais c'était pas aussi pire que, enfin, c'était pas dans le même état que moi. Et donc ensuite, le lendemain, on a pris un transport, on est arrivé à la clinique, une clinique privée en anglais où ils étaient vraiment géniaux à Antigua. Et donc, ils nous ont fait tout de suite, moi, ils m'ont mis sous intraveineuse tout de suite. Ils ont réalisé, ils m'ont mis à Baxter, je sais pas comment on appelle ça, mais ils m'ont envoyé, je pense, des sels minéraux, etc. Directement parce qu'ils ont vu ma gueule. Teresa, en fait, ensuite, on a fait les tests sanguins. Et en fait, voilà, ils nous ont confirmé qu'on avait un sérotype assez corsé de la dengue. Ce qui fait que beaucoup de personnes, en fait, vont parfois se faire piquer et choper la dengue sans même savoir. Parce qu'ils ont un sérotype qui est plus light ou autre. Mais nous, on a chopé un sérotype sérieux, voilà, pas de bol. Et en fait, le problème de la dengue, c'est que pendant 10 jours, en fait, t'es KO. En fait, ça s'appelle les montagnes russes aussi. T'as vraiment pas d'énergie et il n'y a pas de traitement. Donc, tu dois juste prendre des électrolytes, donc de l'eau avec beaucoup de sels minéraux, t'hydrater beaucoup, rester à proximité pour qu'ils te puissent te suivre pendant les 10 jours et surtout veiller à ne pas avoir de perte de sang parce qu'en fait, la dengue, pour faire court, c'est un virus qui se transmet par les moustiques. D'ailleurs, ça se propage de plus en plus, même jusqu'en Europe, dans les pays de la Méditerranée. Et ça, vraiment, ça représente presque... En fait, si tu veux, la dengue est présente dans 50%... Comment expliquer ça ? Dans les endroits où près de la 50% de la population mondiale vit aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un truc qui se développe très rapidement, malheureusement. Et donc, voilà, il faut veiller à ça dans les régions tropicales, etc. Donc, couvrez-vous, comme je disais. Et donc, le problème, en fait, de ça, c'est que ça te fait baisser grandement... Ça fait chuter même tes globules blancs, donc ton système immunitaire et même tes plaquettes. Et donc ton sang est beaucoup plus liquide que ce qu'il devrait l'être. Et donc ça peut créer des risques de saignement intense, voire d'hémorragie interne. Donc en fait, dans tous les gens qui chopent la dengue, il y a une petite partie, je crois que c'est 20%, j'avais lu une fois, de personnes qui vont avoir des symptômes comme nous on a eu. Et dans ces 20%-là, tu as un petit pourcentage qui peut faire des hémorragies internes, ce qu'on appelle une dengue hémorragique. Et là, c'est beaucoup plus sérieux et grave parce que tu te doutes bien qu'un saignement extérieur, tu peux essayer de le stopper comme tu peux, tu vois. Mais un saignement interne, c'est beaucoup plus compliqué à traiter, surtout depuis le Guatemala, tu vois. Et donc, si tu as une dengue hémorragique, tu dois te faire hospitaliser. Et oui, tu peux, malheureusement, un pourcentage des personnes en meurent, malheureusement. Donc, c'est un truc qui n'est pas agréable à réaliser et à apprendre quand tu es sur place. Et donc, en fait, tu dois veiller à ne pas avoir de saignement. Et tu dois, que ce soit quand tu vas aux toilettes, que ce soit via le nez ou via les oreilles et autres. Et donc, moi, j'ai eu la chance, après quasiment une semaine, de réaliser un matin que je me suis réveillé, j'avais du sang qui avait coulé de mon nez. Et je peux te garantir que j'ai fait mon cerveau a complètement bugué parce que j'ai eu, je pense, peut-être la plus grosse peur de ma vie. Parce qu'à un moment donné, j'ai vu noir, j'avais les yeux ouverts, j'ai un œil où je ne voyais plus. Je me suis allongé, j'étais instantanément complètement trempé parce que je me suis dit, ça y est, je fais une hémorragie interne. Et ce que j'ai réalisé, en fait, après quelques ondes, c'est qu'en tenant un mouchoir, j'avais l'impression que ça avait un peu ralenti. En fait, j'ai l'impression que ça coulait beaucoup moins. Mais j'ai quand même vu ma vie défiler. Et tout ce que j'ai pu dire à Teresa, c'est que je saigne. Reason I'm bleeding, je lui dis. Et elle a pris directement Airbnb. On était à 5 minutes de la clinique. On y est allé, donc c'était un dimanche à 6h du matin, je me rappellerai toujours. Et on a fait des tests. Et forcément, moi, mon saignement, ça avait grandement ralenti. Et en fait, la femme nous a bien mieux expliqué qu'en fait, ça pouvait arriver que tu aies des saignements. Mais si ça s'arrêtait, c'était pas forcément une hémorragie interne. Parce que si c'est une hémorragie interne, ça s'arrête pas, tu vois. Tu perds, je sais pas combien de quantité de sang. Et bref, j'ai voulu faire court, mais c'est compliqué parce que ça a raconté, c'est prenant. Et je pense que c'est un truc que j'aurais aimé entendre si un jour vous avez ce genre de truc. Et donc, bref, ce qui s'est passé, c'est que après, j'ai plus d'autres saignements, mais clairement, j'étais pas bien pendant les 3-4 jours qui ont suivi. On nous a aussi expliqué que la dengue, pour s'en remettre, vu que ça te flingue en fait ton niveau d'énergie, tu dois te forcer à manger et à boire, mais t'as pas faim et clairement tu subis ta vie, t'as aucune énergie. Et derrière, en fait, ça prend 2 à 3 semaines de retrouver son énergie et ton système immunitaire, il est vraiment déficient pendant 2 à 3 mois. Et donc la question s'est posée à un moment donné, vu que notre état... En fait, si tu veux, le problème, c'est que les résultats sanguins de Teresa étaient pires que les miens, mais moi, j'avais des symptômes pires qu'elle. Et enfin, je dis ça maintenant en souriant, parce qu'heureusement, c'est loin derrière, mais les niveaux en fait, de globules blancs et de plaquettes de Teresa, en fait, étaient proches de devoir être hospitalisés. Et alors qu'elle avait des symptômes, certes, mais moi, je subissais clairement plus qu'elle ma vie, tu vois. Et en fait, forcément, ensuite, il y a eu un accord, un échange, parce que moi, je communiquais ça à mon assurance. Il y a eu un échange entre les deux parties qui sont tombées d'accord pour rapatriement. Parce que, en fait, si Teresa continuait d'attendre et que ça continuait de baisser, elle ne pourrait pas être rapatriée. Et le but, c'est pas d'attendre d'être hospitalisée au Guatemala, tu vois, du tout. Donc ensuite, on a été rapatriés. Et c'est là où je peux vous garantir que Gobayava, ils m'ont pas du tout payé pour en parler, machin et tout. C'est juste que quand je pars, eux, ils nous assurent. Et ils ont clairement répondu présent. C'était pas facile parce qu'il y avait le décalage horaire, parce qu'ils ont aussi leur partenaire parfois pour l'étranger qui est AIG France, et qui va du coup parfois être l'intermédiaire aussi, et l'assurance qui va vraiment payer. Gobayava parfois est plus le côté communication, si tu veux, mais ils ont fait vraiment le lien un maximum. Et en 24 heures, une fois que l'accord a été trouvé, ils nous avaient réservé des vols de notre choix avec plusieurs propositions. Et donc on a même pu choisir en fait d'aller en Allemagne plutôt qu'en Belgique parce que c'était beaucoup plus pratique pour nous d'aller chez le papa de Teresa alors que c'est pas du tout prévu. Et donc en 24 heures ils avaient payé les billets, donc en fait on a juste dû se présenter et ils avaient réservé aussi des transports, donc depuis Antigua jusqu'à l'aéroport. Donc en plein milieu de la nuit on est en transport privé alors que ça coûte quand même assez cher au Guatemala. Qui nous a amené à l'aéroport, et ensuite même arrivé en Allemagne, on avait un transport privé qui nous a amené jusqu'à l'adresse du papa Teresa. Et tout ça, on n'a pas déboursé un seul euro. C'est Gobayava et AIG qui ont tout pris en charge, et ils nous ont même remboursé après coup tous les frais qu'on a eu. Je crois qu'on avait pour 450 euros. de consultations et d'électrolytes qu'on devait prendre et voilà, des médicaments qu'ils nous avaient comme plus ou moins conseillés au cas où on avait des problèmes un peu plus supplémentaires. Mais voilà, je peux te garantir que Gobayava, là je peux le dire haut et fort, ça fait des années que je recommande, que ce soit pour PVT, backpack, tour du monde, même tourisme. Les gars, ils ont répondu présent et je m'attendais pas à ce que. Parce que la dengue, c'est pas un motif de rapatriement à la base. C'est vraiment. Voilà, y a des gens qui vont choper la dengue, qui vont subir leur vie pendant 10 jours et après ils vont continuer à voyager, etc. Alors que là, nous, c'était vraiment. C'était aussi une sorte de est-ce que ça vaut la peine de continuer alors qu'on va pas avoir d'énergie, qu'on a un système immunitaire qui va être déglingué, qu'on a subi notre vie, que moi j'avais déjà fait une indigestion avant, Thérèse avait déjà eu aussi un mal de tête important avant, je pense une histoire d'acclimatation par rapport à l'environnement et l'altitude. Donc en fait juste c'était une accumulation de choses et puis je t'avoue aussi que même si on a quand même découvert des régions magnifiques, c'était pas que ce à quoi on s'attendait. C'était beaucoup plus cher aussi que ce à quoi on s'attendait alors qu'on voyageait en mode backpack. Et oui, l'accueil, la culture n'était pas vraiment ce à quoi on s'attendait. Encore une fois, voilà, je ne veux pas du tout dénigrer une région du monde. Hein. Faites-vous votre propre avis en visitant cette région-là. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont des super expériences, que ce soit au Mexique, ailleurs. Nous, vraiment, on n'a fait que le Guatemala, donc on ne peut pas parler pour le reste. Mais voilà, ce n'était pas ce à quoi on s'attendait, clairement. Et donc, effectivement, tout s'accumulait, plus le fait de nous proposer l'option du rapatriement. Et après le stress que moi j'avais vécu, enfin qu'on avait vécu avec en chopant ça, avec mes malaises, avec mon saignement et tout, clairement on avait envie d'une chose, c'était de rentrer en Europe et de se sentir en plus en sécurité en Europe. Et crois-moi qu'on n'est pas prêt de quitter l'Europe pour encore un petit moment. On est très content actuellement d'être en Europe. Et comme quoi, tu vois, je décris énormément cette région du monde-là, mais ça reste pas. Voilà, c'était une expérience qui m'a permis aussi, enfin, qui nous a permis d'évoluer aussi dans notre réflexion par rapport à l'expatriation. Donc encore une fois, je te ferai des épisodes dédiés à ça. Bref, je conclue sur le Guatemala, il y a plein de choses que je pourrais te raconter. Si vous voulez un épisode dédié vraiment avec plus de détails, les budgets, etc., j'aurais peut-être dû te préparer un peu plus d'informations avec les budgets, etc., mais sache que c'était plus cher que ce à quoi on s'attendait. Même dans le petit village de surf, de mémoire, je pense qu'on a vraiment dû. Enfin, on avait du mal à trouver quelque chose de correct, alors qu'on n'est pas du tout exigeant. On a fait vraiment du mode backpack, les gars, en Asie, vraiment en mode vraiment pour rien du tout avant la flandémie. Et on ne trouvait rien pour en dessous de 29 ou 30 euros par nuit à deux, quand même, tu vois. Donc c'est sûr que ça fait 15 euros par nuit par personne, mais on est dans un petit village au fin fond du Guatemala, tu vois, on s'attend pas à payer ça notamment. Et puis même pour manger, c'est pas du tout aussi donné que ça. Donc voilà, c'est tout ça en fait a fait une accumulation de, écoute les gars, si vous nous rapatriez, on est content de rentrer en Europe très clairement après ce qu'on vient de subir. Et oui, effectivement, du coup, ça nous a fait que 3 semaines, donc encore une fois. Mon avis est le mien, je ne juge pas, et c'est juste qu'effectivement au niveau de la culture aussi, on a été globalement un peu déçus, parce qu'en fait, on a réalisé à quel point. Les écrans en fait ravagent les pays qui sont pas préparés à pouvoir s'en protéger. Alors tu vas me dire qu'on n'est pas du tout plus préparé, tu vois, l'addiction, etc. aux écrans aujourd'hui, on n'est pas plus préparé chez nous, mais là-bas en fait, si tu veux, t'as très vite les gens du coup qui, et même les plus jeunes, qui vont être dans les rues à scroller non-stop, tu vois, être sur YouTube, ils ont des forfaits limités YouTube, etc. Et c'est triste parce que du coup, ça, je pense que ça flingue effectivement une grosse partie de la culture. Et bref, du coup, ouais, même je t'avoue, sur l'alimentation, on s'attendait à, tu vois, des particularités, tu vois, un petit peu latines, etc. Et là-bas où on était, c'était pas spécialement le cas. Donc voilà, retour assez mitigé pour nous. Et au final, je t'avoue qu'on était soulagés. Et en fait, même quand on est rentré, je peux te garantir qu'on a continué à subir. Alors on était beaucoup plus serein. Parce qu'on était en Europe, et qu'en cas de rechute ou autre, Teresa a dû continuer à faire 2-3 fois des tests sanguins pour voir que ses niveaux remontaient progressivement. Et en fait, après, ça se termine vraiment, après franchement, encore 1-2 semaines supplémentaires, et après, ça se termine où tu as des picotements pendant la nuit, au bout des doigts, au bout des pieds. Et je me rappelle, j'ai eu ça pendant 3-4 nuits, c'était un enfer. Et après, bah, du coup, progressivement, on me dit, je voulais faire un petit peu du sport, tu vois, je me dis, j'allais un peu mieux. Bah, je faisais 10 minutes de sport, 10-15 minutes de sport, j'étais au bout de ma vie. Donc c'est vraiment quelque chose qui prend du temps à se remettre, à récupérer ton énergie, ton système immunitaire, etc. aussi. Et après, je peux te garantir que j'ai reboosté mon système immunitaire comme jamais. Quand ça allait mieux, j'ai recommencé à aller courir alors qu'on était en plein hiver en Allemagne, tu vois. Donc, parce que j'étais déter de reconstruire mon système immunitaire et de le renforcer progressivement. Je conclue sur ce sujet-là. Désolé, j'ai fait quasiment une demi-heure là-dessus. Enfin, mais voilà, je pense comme ça, au moins, il y aura un épisode dans lequel je fais un petit peu d'un retour sur le Guatemala et notamment l'Amérique centrale. Alors, je peux pas parler d'Amérique centrale au final, je vais parler juste que du Guatemala. Mais c'est vrai qu'en fait, pour te terminer vraiment là-dessus, c'est qu'on a eu beaucoup d'échanges avec des personnes sur place et avec des amis aussi qui s'étaient rendus et qui sont allés au Nicaragua, même au Costa Rica. Et en fait, qui ont eu des expériences assez similaires. C'est-à-dire que oui, si tu es prêt à mettre un gros budget type un peu plus touriste, la classique qui part en vacances, pour être dans un endroit vraiment cool, tu vois, que ce soit vraiment une sorte même d'auberge, tu vois, tu as des auberges sur la plage qui sont vraiment cool, bien aménagées, plus modernes, etc., avec plus de confort d'une certaine manière, ou voyager vraiment dans les logements vraiment un peu plus, ouais, où tu vas payer clairement le double de ce que nous on payait. Bah là, clairement, tu vas avoir une expérience qui est différente. Si tu es prêt aussi à payer beaucoup plus pour manger aussi, bah, tu vas manger beaucoup mieux aussi. Et tu vas être moins sujet, je pense, à voilà, des transports aussi, où c'est un peu plus la galère, où tu dois changer 3 fois de transport, ton sac, tu dois le taper sur le toit à chaque fois, puis ils vont te le jeter, enfin tout. Des trucs comme ça, mais ça fait partie de la vie en backpack. Donc oui, si tu as un gros budget, voilà, je voyais des gens, par exemple, maintenant je vois passer des budgets tour du monde sur Facebook, des gens ils mettent 25 000 euros pour un an par personne en mode tour du monde. Ben voilà, c'est des autres budgets. Si tu as un budget comme ça, ben oui, tu vois, par exemple, on a une très bonne amie qui a fait, je pense, un mois au Costa Rica dans une sorte un peu de retraite pour surf, tu vois, on appelle ça des surf retreats où tu as un peu yoga, méditation, surf. Bah oui, si tu es prêt à mettre ce budget-là, ou que tu peux faire du bénévolat, bah en fait, tu vas avoir une expérience complètement différente, parce que tu seras vraisemblablement à bord de plage, avec quand même un certain confort, avec toujours de l'accès à la nourriture, entre guillemets, qui normalement ne devrait pas te faire tomber malade, et clairement, tu vas profiter d'un cadre magnifique. Mais en mode backpack, c'est beaucoup plus hardcore, et donc notre ami en question, et même d'autres qu'on a rencontrés, nous disaient, bah, c'est sûr que dès que tu sors en fait, de ce petit cocon-là, d'une certaine manière plus confortable, où il faut payer un peu plus, etc., bah, c'est sûr que c'est très vite, galère, irritant. C'est les transports, tu vois, en mode backpack, c'est pas forcément à l'heure, c'est des changements de plan en permanence, c'est fatigant aussi, on va pas se mentir. Et voilà, on a discuté aussi avec pas mal de voyageurs qui avaient le même ressenti, donc voilà, c'est notre retour de manière générale sur un petit peu le Guatemala et l'Amérique centrale. Maintenant, encore une fois, à toi de te faire ton idée, il y a plein de personnes qui ont eu sûrement des expériences incroyables, mais je pense encore une fois que c'est souvent très romancé aussi sur les réseaux sociaux. On va te montrer que les belles photos, que les belles images, mais pas te parler des galères et des destinations qui ont beaucoup moins plu. Et voilà, dans les transports en commun, on entendait aussi des voyageurs et parfois avec qui on finissait par discuter, qui disaient effectivement d'autres régions, que ce soit le Belize, le Honduras ou des pays aux alentours, il y avait aussi du coup le Salvador qu'on voulait faire, qu'on n'a pas pu faire malheureusement, bah, qui disaient qu'à part quelques endroits, bah, sinon c'est globalement, il n'y a pas grand chose, tu vois, à voir, c'est très, voilà, des petits villages de gens qui doivent se débrouiller, tu vois, avec la vie qui est la leur, et ouais. Et du coup, bref, voilà, avenir, enfin, globalement mitigé pour nous. Clairement, je pense pas qu'on y retournera de sitôt. Et clairement, je pense pas que c'est un endroit où on se projette de s'installer. Ouais, même pour une expatriation, même temporaire en tout cas. Donc voilà, je termine ce chapitre-là et j'enchaîne avec donc notre choix de se poser globalement en périphérie de Munich. Donc on n'est pas à Munich, mais en fait, si tu veux, c'est une opportunité via une amie, une très bonne amie qu'on a rencontrée au Portugal, qui est devenue une très bonne amie à nous, dont la famille a hérité d'une belle maison, en fait, si tu veux, en périphérie de Munich, dans un quartier très calme, avec un grand jardin, avec du coup, bah, une maison qui est assez grande pour clairement faire 2 appartements, tu vois, sur le rez-de-chaussée, le premier étage. Donc notre ami vit au-dessus, nous on a l'appartement du bas, et avec même un garage dans lequel Pabito, notre van, rentre au centimètre près. C'est assez incroyable, et donc on est très content aussi d'avoir un endroit à l'intérieur pour voilà, les hivers, etc., pour le van notamment. Donc c'est quelque chose qui est arrivé un peu comme une opportunité pas forcément prévue, avec aussi un besoin de s'ancrer, de se poser. Teresa, tu sais, moi j'ai mon activité en ligne, mais Teresa a pas encore son activité, enfin elle a pas d'activité en ligne, et elle est très peu, voilà, c'est ça un peu aussi qui fait notre équilibre, c'est qu'elle est très peu écran, très peu réseaux sociaux, elle est pas du tout, ce sera voilà, jamais la ce sera jamais la femme qui va devenir créatrice de contenu, je pense, ou même voilà, influenceuse ou quoi que ce soit, pas du tout. Et donc, elle avait aussi envie, à un moment donné, de trouver un job en lien avec son diplôme et pour pouvoir aussi remettre davantage de côté, parce que notre projet, ça reste de pouvoir avoir acheté, de pouvoir en fait acheter un terrain avec une maison, pouvoir l'aménager ou à retaper ou autre progressivement dans un endroit qui nous plaît. Et voilà, pour l'instant, on reste un petit peu avec les yeux sur le Portugal, mais ça, j'en parlerai davantage dans les épisodes dédiés, comme je disais. Et donc là, on a une opportunité de se poser dans un endroit. Bah, en plus, on va partager une très belle maison avec un grand jardin. Et en fait, c'est ce qui a fait une différence pour moi, je t'avoue, dans la décision, parce qu'à la base, je ne me voyais pas du tout vivre, en tout cas me poser une bonne partie du temps en Allemagne, c'est d'avoir une pièce dédiée qui serait mon bureau, avec un grand bureau dans lequel je peux faire tout ce que je veux, dans lequel j'ai mon premier espace de travail, en fait, qui est dédié juste à ça. Et j'avoue que ça a fait une grosse différence, ça avec le jardin, plus le fait de vivre avec une personne dans une, alors c'est une ancienne maison, mais qui est quand même très belle, et par exemple le parquet, ils l'ont refait, c'est magnifique, bah, en fait, qui est une amie, donc en fait on est dans un quartier calme aussi, où tout est entre guillemets safe, et voilà, on peut s'y balader n'importe quel moment. Il y a pas comme en Allemagne, ce qui est bien en tout cas ici, c'est qu'il y a beaucoup de parcs, il y a beaucoup de choses en bord de rivière, il y a beaucoup d'endroits où tu peux aller te poser et t'as pas la pression, tu peux faire 20 minutes de vélo et t'as pas du tout la pression d'être dans une grande ville, dans une grande métropole. Et dernier énorme avantage, c'est qu'on est à moins d'une heure des Alpes, et donc des montagnes, avec des montagnes et des lacs qui sont vraiment incroyable. Donc on peut y aller quasiment tous les week-ends si on le veut. Parfois même en semaine, si on veut se faire une journée là-bas sans aucun problème, faire des randonnées incroyables. Et donc voilà, tout ça fait que ça a fini par nous convaincre, nous attirer. Teresa était plus facile à convaincre que moi. Et puis aussi, surtout, ce qui s'est passé, c'est que vu que c'est une maison qui est plus ancienne, et en Allemagne, il y a des normes qui sont vraiment très casse-couilles, en fait, si tu veux, pour pouvoir louer. Les lois écologiques et tout pour ruiner les gens encore pire. Il le fait à un prix beaucoup plus abordable que les prix du marché ici. Parce qu'en fait, ça va lui demander beaucoup plus de travaux et de temps. Et donc, c'est plus facile d'avoir des personnes qui vont être davantage satisfaites sans devoir tout refaire, tout rénover directement pour pouvoir mettre un peu de côté pour les travaux. Et puis, je sais qu'aussi, ce qui est dramatique, mec, je ne vais pas rentrer dans les détails du tout, c'est des trucs plus perso, mais pour hériter d'un bien en Allemagne, je ne sais pas si c'est le cas en France, je ne sais même pas si c'est le cas en Belgique, mais ils doivent payer un pourcentage qui est indécent de la valeur du bien. Enfin, c'est vraiment, mec, c'est... Alors que pour moi, l'État n'a aucunement son mot à dire là-dedans, tu vois. C'est un truc qui se transmet de génération en génération dans la famille. Moi, crois-moi que quand j'aurai mon bien, je veux le transmettre à mes enfants et je veux pas que mes enfants aient à payer pour... Enfin, ça n'a aucun putain de sens. Ben, bref, je digresse là-dessus, mais... Donc bref, le fait est qu'en plus, ça nous permet de pouvoir avoir un logement qui est vraiment chouette à un prix qui est clairement en dessous de ce qu'on peut trouver sur le marché ici. Donc voilà, tout ça cumulé fait qu'on s'est posé ici et qu'on est très content de se poser ici pendant une période donnée. Et donc le plan, c'est aussi de pouvoir ponctuellement un peu vagabonder avec le van. On a aussi des amis qui sont ici posés, qu'on a aussi rencontré au Portugal, dont un qui est autrichien, et donc on a prévu d'aller faire un trip en Autriche aussi. Là, on revient justement d'un mois au Portugal, qu'on a fait avec le van. On s'est fait ce délire-là de descendre au Portugal avec le van et de ensuite remonter. Ce qui fait qu'on a pu passer un mois au Portugal. Et donc, voilà, je suis un peu court sur le côté, se poser, s'ancrer, mais je pense que tôt ou tard, je ferai un épisode là-dessus aussi parce que j'ai prévu de faire un épisode qui s'appellera « Le voyage pour se retrouver et après », tu vois. Et je pense qu'à un moment donné, tôt ou tard, quand tu t'es un peu trouvé, quand tu sais un petit peu ce à quoi tu aspires, la vie que tu souhaites avoir et que tu as trouvé la bonne personne pour le faire à deux, je pense qu'effectivement, progressivement, tu as moins besoin de continuer à voyager, à te chercher, etc. parce que tu as plus envie de te poser, de t'ancrer. Et je pense que c'est la phase clairement dans laquelle on est. Ça n'empêche pas que tu peux continuer à voyager, à vagabonder, mais voilà, on est vraiment dans cette phase-là. Et donc aussi l'autre avantage, le dernier point par rapport à l'Allemagne, c'est clairement, je suis du coup pas à l'autre bout du monde quand je veux rentrer en Belgique pour voir ma famille ou même voir mes amis. Je maintiens que j'ai une chance formidable d'avoir un groupe d'amis malgré depuis plus de 10 ans, qui malgré mon mode de vie nomade fait qu'à chaque fois que je les revois, on se fait des réunions annuelles au moins une ou deux fois par an, où on se bloque plusieurs jours ensemble. Souvent entre mecs, je t'avoue que ça permet d'avoir aussi des moments en fait qui sont différents quand on fait ça à plusieurs. Ça me permet aussi régulièrement de pouvoir aller là-bas pour pouvoir faire des choses avec eux très clairement et puis être là aussi pour les 60 ans de ma maman, ce genre de choses, tu vois, qui sont ou même de la famille, des événements qui font partie de la vie aussi. Donc maintenant voilà, pour conclure le chapitre sur pourquoi on s'est posé un petit peu ici, je ne sais pas exactement jusque quand, potentiellement jusqu'à l'année prochaine, ça c'est certain, potentiellement jusqu'au second semestre, il y a encore rien de défini, mais voilà, on se sent bien ici et c'est sûr que c'est pas ici qu'on, je pense, on se projette, mais en tout cas c'est quelque chose qui nous convient très bien pour le moment et qui nous permet de nous poser et moi de développer beaucoup plus de projets et de pouvoir mettre en place pas mal de choses, et puis Teresa aussi de pouvoir s'épanouir professionnellement, accumuler de l'expérience, prendre le temps de réfléchir à ce qu'on a envie de faire par la suite et ce qu'on pourrait construire ensemble, même si on a déjà plusieurs idées par rapport à ça. J'en viens donc maintenant un petit peu sur le chapitre un petit peu budget au Portugal. Je vais donc te parler un petit peu plus de combien ça nous a coûté clairement de faire l'aller-retour avec le van depuis l'Allemagne, sachant qu'il y a 2500 km aller, 2500 km retour avec notre vieux van Pablito qui est aussi vieux que moi, hein, qui est des années qui est de 1990, moi je suis 91, et donc qui a 180 000 au compteur, ça a Mitsubishi L300 2.5 diesel manuel, et c'est des moteurs qui sont réputés increvables très clairement, et je pense qu'on a quand même eu un bon prix. On l'a acheté 6 500 €. D'ailleurs, je vais en parler un petit peu aussi parce que ça, je sais que c'est un truc qui revient souvent sur le pourquoi on a acheté un van au Portugal. Je t'avoue qu'en fait, vu qu'on se projette pas mal au Portugal, déjà, ça a du sens pour nous d'acheter un véhicule qui est déjà là-bas, qui est déjà au Portugal, dont tout est déjà fait de façon administrative pour qu'il soit au Portugal, etc. Parce qu'apporter un véhicule, souvent, ça engendre des frais. Et donc, forcément, il y a aussi la réalité, c'est que les prix sont globalement moins cher qu'en Belgique, en France ou en Allemagne, parce qu'en fait le portugais moyen, il a moins d'argent à mettre, il n'a pas de budget absurde à mettre dans des véhicules seconde main parce que c'est devenu la mode depuis quelques années. Tu vois des véhicules aujourd'hui en France, en Belgique, en Allemagne qui sont à des prix vraiment, je trouve, déraisonné en fait pour ce que c'est des véhicules, juste parce que c'est un T4 et qu'il a, même s'il est à 300-350 000, tu vois des trucs à 10, 12 000, 15 000, j'en sais rien. En cherchant bien, il y a sûrement moyen de trouver des bonnes offres encore, mais je trouve que voilà, il y a devenu un marché devenu un petit peu complètement fou. Et donc, nous, on a acheté ce véhicule-là en bon état, déjà aménagé, entièrement aménagé. Enfin, les gens qui me suivent sur Instagram ont déjà vu l'intérieur, etc. Il y a des panneaux solaires, il y a une très bonne seconde batterie, il y a tout un système électrique, il y a une cuisine qui est vraiment hyper bien faite à l'arrière, qui fait qu'on peut, on peut l'utiliser depuis l'intérieur, mais aussi depuis l'extérieur, avec un système de pompe à eau, etc. Donc bref, il est hyper bien aménagé. On a juste découvert après coup, mais j'ai traité ça depuis, qu'il y avait quand même pas mal de points de rouille, parce que même si on avait vérifié tous les trucs en fait, qu'on peut voir, ben, sous la carpette, tu ne vas pas toujours vérifier tout, partout sous la carpette. Donc bref, ça m'a pris quand même une semaine et demie de bien faire ça, et de bien traiter en profondeur, mais maintenant c'est une chose qui est derrière moi, et je peux te garantir que j'en ai quand même... J'ai passé beaucoup d'heures en fait pour bien faire les choses et pour bien traiter jusqu'à la racine en fait et me débarrasser de toute la rouille possible et même parfois resolidifier certaines parties. Mais donc voilà, on l'a eu pour 6 500 euros et avec un van qui avait donc un très bon moteur qui est diesel manuel. Donc voilà, des moteurs japonais en plus Mitsubishi qui sont supposés increvables. On l'a acheté à moins de 170 000 km. Donc clairement, quand tu vois les prix des trucs à 350 000 ou 400 000 ou même 300 000, je me dis qu'on a fait une bonne affaire de l'acheter au Portugal notamment. Et donc c'est notre petite, voilà, c'est notre petite maison Liberté. Alors ça reste un van qui est long, qui n'est pas spécialement haut en taille, mais on voulait un truc aussi qui passerait un peu partout et plus ou moins inaperçu, même s'il est plus long voilà, qu'une voiture normale, mais le fait est qu'il est quand même assez discret. C'est quelque chose qu'on voulait aussi, on ne voulait pas se retrouver avec un énorme fourgon, alors peut-être qu'un jour, oui, mais ce n'est pas quelque chose que nous, on souhaitait avoir. On ne souhaitait pas non plus mettre des sommes énormes là-dedans. On souhaitait mettre voilà, ce type de montant-là, parce que du coup, je préfère mille fois avoir... je me dis que c'est fou quand même pour l'équivalent de 3 000 euros en fait, que j'aurai en plus sur mon compte en banque qui me servira absolument à rien. En mettant 3 000 euros chacun, un peu plus, bah, on a une maison sur roue en fait, qu'on utilise depuis plus d'un an et demi déjà. Donc ça fait, ouais, clairement là, il n'y a pas photo à mes yeux. Et voilà, ça nous a permis de faire ce trajet-là. Alors pour vous donner un petit peu le prix par rapport au trajet en tant que tel, donc comme je vous dis, 2500 bornes, hein, traverser toute la France quasiment en diagonale, une partie de l'Espagne et puis redescendre jusqu'à notamment Ericeira. On en a eu pour, alors que je regarde ça avec les... alors on a décidé de faire les péages, parce qu'en France, pour être honnête avec vous, vous avez tellement de radars en France, c'est vraiment absurde, qu'en fait, je pense que prendre les péages, c'est limite plus économe que risquer de prendre je sais pas comment vous appelez ça, des départementales, tu vois, ou des routes en fait annexes ou non payantes, où vous allez avoir des radars à chaque passage de village, c'est vraiment absurde, ou à chaque travaux, c'est vraiment fou. Et donc, en fait, on a payé 114 euros de péage pour l'aller, plus 418 euros de diesel, parce que merci, le prix de diesel a quand même bien augmenté par rapport à avant. Donc, pour l'aller, 532 euros à deux. Et on a fait ce trajet-là où, voilà, clairement, on faisait quand même beaucoup d'heures de route. On a fait ça en 4 jours et demi. Sachant que notre vieux Pabito, clairement, on ne va pas le pousser à du 130, hein, on roule à plutôt 100-105 à l'heure. C'est sa vitesse de croisière, il est très content comme ça, et nous, ça nous va aussi. Pour le retour, on en a eu pour un peu plus, parce qu'on a eu... alors, le retour, j'en parlerai juste après, mais en fait, on a eu 380 euros de diesel, donc moins, 126 euros de péage, un peu plus, et 150 euros de mécano, parce qu'on a eu, malheureusement, une... Ça se fait aussi, le prix à payer, enfin, c'est aussi la réalité, tu vois. Moi, je vous parle aussi beaucoup de... Je trouve ça plus intéressant d'acheter un véhicule à ce prix-là, parce que bah voilà, clairement ça coûte pas grand-chose au final, et t'as un van qui est supposé durer pour longtemps, mais ça fait aussi partie du jeu. Avec les vieux véhicules, t'as des choses que tu peux pas prévoir, avec la corrosion, avec l'usure naturelle, etc., des choses. Et donc on en a eu pour 150 euros, et encore c'est pas cher payé, parce qu'en fait on a eu une fuite au liquide de refroidissement. Et j'ai vu en donner très vite, d'ailleurs c'est un truc qui vous servira un jour si vous êtes sur la route avec un vieux véhicule. En fait, si tu veux, le van, souvent les vieux vans, tu vas garder un œil quand même sur la température du moteur. Clairement, les vieux vans normalement ils se ventilent bien, c'est des trucs qui sont quand même intelligents, c'est pas comme les nouveaux trucs maintenant où t'as pas d'électronique et plat de plastique, et dès qu'il y a un truc qui fonctionne pas très bien, ça va t'enchaîner des frais ad vitam aeternam, et ça peut vite moins bien fonctionner. En tout cas, je pense pas que les véhicules d'aujourd'hui dureront 30 ans, tu vois, comme notre van. Mais le fait est que là on a eu une fuite, et en fait j'ai remarqué comme donné, le moteur ne refroidissait plus comme il le devait. Et très vite, en fait, quand j'ai réalisé qu'on s'approchait même carrément de la zone entre guillemets de surchauffe, bah clairement, tu prends la première sortie, on a payé notre péage et on s'est arrêté tout de suite au mini parking après le péage. Et donc, clairement, on a réalisé qu'il y avait une fuite, et que même en attendant, faut savoir que si tu attends, alors pour être sûr, attends vraiment une demi-heure, tu vois, si vraiment tu sens qu'il y a une surchauffe, clairement, t'attends une. Alors, on a évité la surchauffe, mais le moteur était quand même bien chaud, donc on a attendu clairement une bonne demi-heure. On a appelé un mécano pour savoir effectivement ce qu'il conseillait. Il nous a dit attendez une bonne demi-heure, et puis bah voilà, normalement, vous devriez pouvoir ouvrir votre radiateur, recharger, Mais évidemment, tu l'ouvres en faisant attention avec des gants, tu vois. Mais si tu attends une bonne demi-heure, voilà, ça refroidit quand même relativement bien, sauf si tu es dans tes températures vraiment extrêmes. Mais grosso modo, c'est ça. Et ensuite, tu peux recharger. Et donc, clairement, j'ai vu que très vite, quand je remettais. Et donc, j'ai vu que quand je rechargeais, bah, en fait, clairement, ça pissait en dessous. Donc, c'était que la fuite était quand même assez importante et qu'elle s'était déclarée pendant une côte ou j'en sais rien. Et donc, on a dû faire appel à une dépanneuse. Et heureusement, on prenait une assurance, les gars. Notre assurance a couvert ça, évidemment. On a fait vraiment l'équivalent de 4 km. C'était un peu ridicule avec la dépanneuse. Parce qu'en fait, on était encore considéré sur l'autoroute. Donc, en fait, on a dû faire appel au 112. Tu vois, en Europe, c'est le 112. Et ensuite, ils t'envoient une dépanneuse. Et ensuite, tu mets en contact le garage qui est venu te dépanner avec ton assurance. Et eux vont régler directement. Donc, ça, c'était une chose de faite. Et ensuite, on a dû trouver un mécano parce qu'ils sont tous débordés en bord d'autoroute. Quand il y a beaucoup de passages, tous les mécaniciens, tous les garagistes en fait sont débordés. On en a trouvé un vraiment gentil. Pour faire court, il nous a réparé le truc. Ça a dû sécher pendant 24 heures. On a pu passer une ou deux nuits sur le terrain du garagiste, vraiment au calme, en pleine nature au final. Donc on n'était pas plus mal. On a découvert le petit village de Ghana, en Auvergne, pour ceux que ça intéresserait, pendant 2 jours. Et donc ensuite, on a pu reprendre la route et terminer la route jusqu'à Munich. Donc fin de cette petite épopée-là. Concernant le budget sur place, il faut savoir que nous, il faut des choses à prendre en compte, c'est qu'on a pas mal de contacts sur place. Ça fait pas mal de temps qu'on retourne à Ericeira ou même à Peniche, ou à Peniche, je ne sais pas exactement comment on dit, mais en gros, dans cette région un petit peu là, au nord-ouest de Lisbonne un petit peu. Donc on a pas mal de contacts, on connaît pas mal de personnes, et ça nous permet de ne pas réserver directement par Booking ou Airbnb. Là où les prix ont vraiment explosé ces dernières années, et voilà, c'est devenu parfois assez ridicule pour ne serait-ce que des chambres ou ce genre de choses. On essaie toujours d'avoir des très bonnes relations avec les locataires, enfin les propriétaires des endroits où on est déjà resté. Donc ça nous permet de rester en contact et voilà, de pouvoir aussi négocier un petit peu les prix. Ce qui s'est passé aussi, c'est que notre logement initial a été annulé 2 jours avant notre arrivée, donc on était sur la route. On avait trouvé un super bon plan et le plan initial était, tiens-toi bien, c'était vraiment pas cher, c'était 700 euros pour 16 nuits et on était à 3. Donc ça nous aurait coûté vraiment pas grand-chose pour... Crois-moi que Ericeira, si tu vas en septembre, c'est plus la haute saison, mais c'est quand même très prisé. Parce que justement, ça devient un petit peu le truc hors saison, donc c'est limite mieux, tu vois. Donc en fait, les prix restent quand même assez élevés. Et bon, malheureusement, ça a été annulé. On n'a rien payé en avance. Forcément, on n'a jamais payé en avance. Mais on a fini par trouver un logement, justement, parce qu'on a des contacts. Parce que sinon, c'est très compliqué de trouver des logements sans te faire ruiner ou plumer à Ericeira un peu à la dernière minute. Donc on a trouvé un logement pour 15 nuits, 950 euros à 3. Donc 316 euros par personne pour 2 bonnes semaines. À Ericeira, c'est vraiment pas cher par rapport au prix que tu peux trouver sur les plateformes aujourd'hui. Pour Peniche, en fait, là, c'est parce qu'on a une personne, une propriétaire chez qui on est déjà resté, qui est vraiment adorable, qui est une Anglaise, et qui est même pas toujours, en fait, à son appartement. Elle vit un peu entre les deux. Et le fait est que elle nous a fait vraiment un prix cadeau. Je pense qu'on a payé moins de 100 euros pour une semaine à deux. Donc, c'est vraiment pour dire de lui donner quelque chose pour les charges, parce qu'au final... et en plus, son appartement, il est vraiment génial, parce qu'on est à vraiment 2 minutes de la plage. Et donc, voilà. Au final, donc, notre budget est un peu biaisé sur le logement, mais encore une fois, c'est une question de... d'aller sur place, de voilà, c'est parce que voilà, si on paye moins qu'on a ces prix-là, c'est parce que ça fait des années qu'on y va, qu'on a des contacts, qu'on essaie d'avoir des bonnes relations, qu'on noue des bonnes relations aussi. Et donc, budget logement pour 3 semaines, 712 euros à 2, donc 356 euros par personne. Niveau bouffe, je fais court parce que, encore une fois, j'ai pas envie de faire un épisode qui va durer des plombes, mais sachez que maintenant, même quand on se déplace, on privilégie la nourriture de qualité. C'est-à-dire que moi, je vais acheter ma viande, je vais chercher vraiment une ferme qui nourrit des vaches à l'herbe, qui les laisse grandir en pleine herbe. C'est mieux pour les animaux et c'est de la viande qui est... c'est même plus la même viande que tu achètes en supermarché, si tu veux, à ce stade-là. La viande du supermarché, pour moi, là où on se rejoint, au final, parfois, il y a souvent trop des conflits, tu vois, entre les... Déjà, ça ne sert à rien de mettre les gens dans des boîtes, tu vois, de te dire est-ce que t'es vegan, végétarien. Non, les gens devraient manger pour se sentir au mieux, avoir une santé optimale, tu vois, et arrêter de les faire culpabiliser s'ils veulent manger telle ou telle chose. Alors, c'est sûr que si vous achetez, je vais pas vous mentir, le but, c'est pas de culpabiliser, c'est de partager ma réflexion, et je ferai un épisode aussi là-dessus sur ma transition, parce que, enfin, ma transition, j'aime pas ce terme-là aujourd'hui, c'est un peu. Bref, mais quand je suis passé effectivement du mec qui comprend rien, qui mange comme un mec lambda, qui devient végétarien, quasiment vegan pendant 2 ans, qui aujourd'hui, maintenant, ça fait plus d'un an que clairement, je suis plus du tout végétarien et encore moins vegan. Et même, je pense que ces régimes ne sont pas adaptés à la plupart des personnes. Je pense que c'est plus des dogmes, de dogmes en mode je suis une meilleure personne si je fais ça et mon rôle c'est de convaincre les autres. C'est pas le cas de tout le monde, mais voilà, c'est aussi une partie des choses qu'on peut ressentir. Aujourd'hui, maintenant, j'ai une alimentation qui est variée. Je ne culpabilise plus de manger de la nourriture d'origine animale parce que je considère que c'est la plus biodisponible, la plus assimilable par mon organisme et la plus riche aussi, qui m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Donc, mais voilà, il y a une énorme différence entre la viande, juste acheter sa viande au supermarché sans se poser de questions, qui est dramatique. d'un point de vue comment elle est faite pour la cause animale et qui est dramatique pour toi, parce que si tu achètes de la viande supermarché bas prix, tu manges de la viande d'animaux qui sont gavés aux antibiotiques, aux hormones de croissance, qui sont nourris avec des trucs de merde, etc. Voilà, là où moi, je préférais acheter, je voulais faire court, mais bref, moi j'en parle un petit peu rapidement ici, je préfère acheter vachement de la nourriture d'élevage en fait en plein air, que ce soit des œufs, que ce soit la viande, tu vois, du bœuf que je vais acheter, etc. Donc le fait est qu'on commande des colis, mais qu'au Portugal, on a trouvé une chouette entreprise familiale qui fait ça, qui est à 60 km de seulement de où on est. Et donc on a un colis de 5 kg par exemple qui arrive par pack, tu vois, de 500 grammes congelé, et ensuite tu décongèles petit à petit. Et ça, ça nous a coûté que 70 euros. Ça coûte plus cher ici, crois-moi. On fait la même chose ici à Munich, c'est pas le même prix. Sinon, on commande également des paniers de fruits et légumes issus d'une petite ferme qui fait de la, ce qu'on appelle de la permaculture régénérative. Donc en fait, ça veut dire qu'ils vont avoir un écosystème qui font que bah, en fait, l'écosystème vit et se régénère, s'auto-régénère, donc ça c'est incroyable, qui est à moins de 10 km d'Ericeira. Et donc en fait, ils ont un système de box en fait, qui te livre en fait, et tu payes 15 euros, tu as un format un peu standard, et ils mettent un petit peu de trucs de saison, etc. Et tu peux modifier jusqu'à deux choses, je crois, en fonction de ce qu'ils ont disponible. Et donc, l'idée c'est qu'on en a eu pour on prend chaque fois un peu plus parce que bah on prend un peu plus de fruits et légumes en plus, on prend les œufs là-bas aussi, etc. Donc pour deux semaines, je crois que ça nous a coûté genre l'équivalent de 60 euros. Et ensuite il y a quand même voilà des produits de base que tu dois faire, que tu dois arriver, que tu dois acheter au supermarché le mieux possible. Évidemment, je suis devenu un peu psychopathe. Je vous conseille l'application Yuka, qui n'est pas la vérité absolue parce qu'il y a du bon sens derrière, mais l'application Yuka qui permet de voir, en fait, il y a vraiment beaucoup d'additifs, de conservateurs et de merde, en gros, pour le dire platement, dans ce que vous achetez au quotidien. Donc là, il y a quand même des courses un peu plus importantes aussi. Il y a un magasin bio aussi où on achète des produits plus spécifiques, tu vois, genre du bon miel ou des trucs comme ça. Moi, je trouve que c'est des aliments, en fait, qui sont extrêmement riches et denses pour le corps, et donc je préfère prendre de la qualité. Et puis parfois un petit peu marché. Donc au final, je crois qu'on va compter. En gros, on va en arriver à 480-500 euros pour de la nourriture pour en tout. Tu vois, donc là pour un mois, donc ça inclut aussi le trajet retour notamment. Donc on va dire 250 euros par personne. Niveau activité, bah, c'est là en fait où nous on dépense pour le dire rien. Parce que nos activités, c'est des choses simples en fait. Alors nous, on a nos planches de surf, nos combinaisons. Donc en fait, on va surfer autant de fois qu'on veut, et ça ne coûte rien. Et niveau activité, bah, en fait, on se balade, on va à la plage, on lit, on passe du temps entre amis, on se fait des repas, on va voir le coucher de soleil, et c'est ça en fait, on a une vie très simple. Donc au final, je pense que le seul truc que je pourrais rajouter, c'est les 54 euros, on a fait à demi-plein pour pouvoir se déplacer entre guillemets entre les spots de surf et se déplacer un petit peu à gauche à droite. On est allé visiter aussi, je pourrais rajouter un petit peu plus d'ailleurs, on est allé visiter aussi le petit village d'Obidoche, qui est vraiment un village un peu forteresse, qui est magnifique. Pour se faire justement une soirée un peu, enfin une fin de journée, un mini restaurant qui sont en fait des pizzas au levain, au feu de bois, etc. Pour nos 6 ans avec Teresa, ça fait déjà 6 ans. Donc je pourrais rajouter peut-être une trentaine d'euros, donc on va dire 80 euros d'activité si tu veux. Donc au final, au total, plus ou moins, on en a un 1236 euros pour nous deux, donc 618 euros par personne. Ce à quoi il faut rajouter les coûts de trajet. Donc sur place, 618 euros par personne pour 3 semaines et demie, on va dire, sur place. Un petit mois, on va dire, plus les trajets. Donc au final, le prix total que j'avais mis dans l'email, c'était 2424 euros, tout compris. Trajet, logement, nourriture pour un gros mois, en fait. Sachant que les 5 jours, c'est un peu du road trip, mais c'est pas non plus du road trip en mode tu chill, tu vois, on passe quand même une bonne partie. Alors on cherche des camping spots agréables, on cherche voilà, des endroits où on peut se poser, etc., qui sont agréables, mais on fait globalement de la route, donc c'est pas le plus grand kiff du monde, mais voilà, ça permet simplement de faire le trajet nous-mêmes et de pouvoir avoir plus de flexibilité. Donc au final, total 2424 euros en tout, soit 1216 euros par personne. Donc c'est vrai que quand je compare à nos 500 euros par mois par personne en Asie du Sud-Est en 2017-2018, on est clairement à plus du double. Mais voilà, le fait est que quand je vois aussi des budgets maintenant, je vois en fait que tous les prix dans le tourisme ont explosé. Donc en fait, c'est cher. Enfin, je sais pas si c'est cher, ce serait un peu à vous de me dire 1216 euros pour un mois tout inclus. Par personne, je ne sais pas si c'est aberrant ou pas. Sachant que voilà, on a passé 3 semaines et demie globalement posé au Portugal à surfer énormément. Je pense qu'au final, vu les prix actuels, au final, c'est peut-être pas cher parce que je vois pas comment on aurait pu faire moins en fait. Même au niveau logement, en fait, je pense pas que c'est possible de faire moins vu qu'on maintenant on arrive quand même à bien négocier nos tarifs et à connaître pas mal de personnes. Mais voilà un petit peu pour la question du budget. Bon, pour vraiment conclure cet épisode-ci, je vais vous faire assez court, mais en gros, les projets en fait pour la suite un petit peu, les projets déjà en 2023. Parce qu'au final, j'en ai pas parlé, mais les choses sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, c'est développer les accompagnements et améliorer les accompagnements en cours. J'ai accompagné Maxime, qui est passé, alors je me trompe chaque fois, mais je pense d'ingénieur à la nutrition. En tout cas, maintenant, il est nutrithérapeute et il développe son activité. Ça se développe très bien pour lui aussi. Il a trouvé maintenant une bonne façon aussi de faire connaître ce qu'il fait petit à petit en démarrant de zéro. J'accompagne également Gwenaëlle, qui est la première, je pense, psychologue spécialisée pour les nomades, qui est clinicienne. Du coup, c'est une psychologue certifiée depuis pas mal de temps, qui est psychologue clinicienne, qui donc accompagne maintenant et se spécialise dans les personnes qui souhaitent voyager, dans la vie nomade, dans l'expatriation. Et je pense qu'il y a bien plus de problèmes de stress par rapport au voyage, d'anxiété, de solitude et de choses, en fait, même par rapport à l'expatriation, où les compétences d'une psychologue peuvent être très pertinentes. J'accompagne également Johanna, qui entame une transition professionnelle, c'est-à-dire qu'elle est coiffeuse professionnelle et elle se spécialise dans les coiffures avec des produits 100% végétaux, parce qu'au final, comme dans tout, au final, c'est sans fin, les produits que la plupart des personnes utilisent pour leur peau ou pour leur shampoing ou pour leur après-shampoing sont pleins de produits chimiques qui sont extrêmement nocifs pour la santé à moyen long terme, et on est en train de se malaxer le crâne et de se faire rentrer dans le crâne des produits chimiques. Donc il existe aujourd'hui des alternatives pour prendre soin de ses cheveux et de sa peau qui sont bien plus naturelles et bien moins nocives pour le corps, et donc je l'aide dans sa transition professionnelle par rapport à ça. Et j'ai également accompagné Marie, qui est une professeure de yoga en Bretagne et qui, aujourd'hui dans une société où il y a tellement de personnes qui veulent devenir prof de yoga, elle se donne les moyens de développer sa propre activité. Elle a réussi à avoir des contrats en fait avec des salles de sport dans lesquelles elle donne des cours régulièrement chaque semaine. Elle développe ses propres programmes également. Elle développe aussi des ateliers qu'elle organise elle-même. Donc, voilà, ce qui s'est passé en fait, c'est que j'accompagne souvent des personnes sur 6 semaines avec Nomade et Libre, avec le gros programme en parallèle Odyssée Liberté que je vais rendre disponible à terme peut-être l'année prochaine, début de l'année prochaine, uniquement en mode formation que vous pouvez suivre pour que ce soit plus abordable. Mais derrière, en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, les personnes souhaitent continuer à la fin des 6 semaines. Et donc, j'ai développé ce que j'appelle transition pérenne, qui est un accompagnement qui est plus espacé, qui est vraiment une forme de transition, en fait, de 6 mois, où là, il n'y a qu'un appel par mois pour ensuite que la personne puisse voler de ses propres ailes. Et c'est quelque chose qui fonctionne très bien et que je trouve extrêmement pertinent. Et en plus, il y a une demande. Donc, ça, c'était pour la partie accompagnement. Et donc, c'est vrai que j'accompagne au final assez peu de personnes par année, parce que c'est un choix, parce que c'est très chronophage, parce que ça me prend beaucoup d'énergie quand j'accompagne plusieurs personnes en même temps. C'est les 6 premières semaines, c'est quasiment 4 appels très intenses, plus les préparatifs, plus les suivis de chaque personne par semaine. Donc c'est quand même quelque chose de très prenant. Et j'avoue que je ne pense pas réouvrir les accompagnements cette année, comme je l'avais dit, je pense. Probablement l'année prochaine, à voir effectivement comment les choses vont s'intercaler dans les projets que je veux sortir. J'ai développé un programme qui s'appelle Trouver sa voie, que je mûrissais depuis pas mal de temps, parce que je sais que beaucoup de personnes bloquent sur l'idée. Et là, l'idée, c'est vraiment de vous aider à mieux identifier quelles sont vos compétences et vos connaissances et vos qualités humaines et professionnelles naturelles, tu vois, même si tu ne sais pas du tout par où commencer. Je vois plein d'outils, on voit plein d'outils ensemble, pour ensuite trouver une idée de projet qui va être réaliste, viable et pleine de sens et qui pourra évoluer avec toi. Mais surtout, en fait, pour moi, le passage clé, c'est de comment convertir cette idée qui te plaît et qui t'attire en une activité réaliste. Parce que beaucoup trop de personnes se lancent juste un peu au feeling. Tu vois, elles n'ont pas vraiment elles vont pas vraiment réfléchir à ce que ça correspond vraiment à un besoin, est-ce que ça va durer dans le temps, est-ce que c'est pertinent de se lancer là-dessus. Donc là, c'est vraiment un programme qui est dédié à ça. J'ai aussi beaucoup, et là c'est ce que je fais aussi principalement, c'est développer et optimiser le blog, c'est-à-dire avoir des nouveaux articles, mais aussi optimiser ceux déjà existants, les mettre à jour, optimiser aussi la monétisation, parce que crois-moi que depuis 2022, je réalise à quel point c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour moi, et à quel point c'est quelque chose sur lequel je peux me reposer en fait pour ne pas vivre stressé du tout. Je peux avoir plusieurs mois sans sortir de programme ou sans faire de promo, je sais que tous les mois j'ai des revenus conséquents sur lesquels je peux m'appuyer et qui couvrent plus que mes frais de vie mensuels qui vont tomber avec mes différents partenariats, avec mes affiliations, etc. Donc je remets et je réinvestis, j'ai une personne aussi maintenant, j'apprends à déléguer, j'ai une personne qui m'aide beaucoup à rédiger de nouveaux articles, à optimiser des anciens, et je fais aussi parfois appel à webmaster pour développer des nouvelles choses. Donc j'apprends à déléguer, c'est un gros travail qui met du temps, mais qui s'apprend progressivement. J'ai aussi rédigé un livre pour les éditions Larousse, ça ne m'y attendait pas du tout, mais c'était vraiment en début d'année. Et justement, le fait d'être rentré plus tôt du Guatemala, ça m'a permis de pouvoir tenir les deadlines, parce qu'il y avait quand même des deadlines. La différence, en fait, ici, c'était j'avais été un peu contacté via le blog, tu vois, donc vraiment zéro piston ou autre. C'est, la personne en charge du projet m'a découvert via le blog, elle a dit « j'aime bien comment tu rédiges ». J'ai envie que tu rédiges le guide officiel tout pour préparer son voyage en Nouvelle-Zélande pour Larousse, aux éditions Larousse. Donc j'ai un livre édité et publié aux éditions Larousse aujourd'hui, qui est disponible dans les grands magasins, dans les grandes surfaces. Donc c'est assez fou pour moi aujourd'hui à réaliser. Mais le fait est que c'est réel. Et c'est un projet duquel je te parlerai aussi, parce que là, forcément, c'était quand même une opportunité incroyable. C'était bien rémunéré aussi. Et puis, il y a aussi une optique de rémunération long terme, tu vois, en fonction des ventes du livre. Mais le fait est que c'est quelque chose aussi, voilà, que je te partagerai parce que c'est quand même un process différent. J'avais quand même des guidelines, tu vois. C'est pas un livre où j'ai choisi le thème, où je partage des réflexions, tu vois. C'est plus en mode, voilà. Alors, j'étais en charge du sommaire. On a défini le sommaire ensemble, comment je voyais les choses, comment je l'organisais. Mais je t'en parlerai un petit peu plus parce que, voilà, il y a eu des choses extrêmement positives. Il y a eu des choses où j'aurais aimé faire les choses un peu différemment, mais voilà, le fait est que ça reste quand même une grosse maison d'édition qui a quand même une façon de travailler, et je t'en parlerai un petit peu plus. Et puis, les objectifs pour la fin d'année, c'est de développer ce projet dont je vous parle à moitié depuis très longtemps, mais qui va être surtout destiné à encourager les personnes à partir en PVT d'abord en Australie. Et c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas actuellement et qui me prend beaucoup de temps, mais je veux faire le truc vraiment bien, et je veux faire la ressource en fait la plus utile et la plus pratique et la plus abordable aussi possible pour les personnes, et encourager un maximum de personnes à vivre cette opportunité-là, parce que moi, elle m'a transformé, ça m'a permis de transformer ma vie derrière. Sans ça, je pense que j'aurais encore une vie dans laquelle je ne serais pas épanoui, heureux. J'aurais jamais eu la mentalité, la confiance de développer mon activité, de faire tout ce que je fais aujourd'hui. Sans pour autant dire que tout est absolument parfait, tout rose, mais le fait est qu'aujourd'hui, je suis bien plus épanoui, heureux, accompli. Et quand je vois la plupart des gens subir ou avoir des problèmes de santé mentale ou être en permanence fatigué, etc., je me dis que ça peut être un tremplin pour énormément de personnes. Et donc, j'ai envie de parler de ça aussi et de développer quelque chose qui sera vraiment pour but d'encourager encore plus. Et d'ailleurs, je ferai des épisodes de podcast là-dessus aussi pour vous en parler, les gars, parce que ça reste une opportunité incroyable de pouvoir prendre du recul, se découvrir, retrouver confiance en soi, retrouver ce qu'on a vraiment envie de faire de sa vie, réaliser qu'il y a d'autres façons de vivre aussi. Ça a été ça le gros déclic pour moi, à prendre du recul sur le mode de vie avant et réaliser que putain, c'est pas ça que je veux faire de ma vie, il y a d'autres choses à faire. Donc bref, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une petite note parce que ça me prend du temps, voilà, de faire ces épisodes-là. J'essaie de nouveau de vous sortir plus d'épisodes parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de me remettre dans le bain et de reprendre l'habitude. Donc après, derrière, il faut faire tout le montage, faut éditer et ensuite il faut mettre en ligne, etc. Donc ça prend du temps. Donc si c'est le cas, une petite note de votre part fait toujours extrêmement plaisir, que ce soit sur Apple Podcast ou que ce soit sur Spotify. Vous allez sur la page du podcast simplement et vous laissez une petite note. Ça prend vraiment 2 secondes sur Spotify par exemple et ça me motive d'en voir chaque semaine un peu plus. Donc vous pouvez aussi en parler autour de vous ou partager l'épisode s'il parle d'un sujet avec lequel vous avez parlé, avec vos potes, avec vos proches, ou qui pourrait aider ou encourager un ami ou une connaissance ou un proche. Et puis si vous voulez aller plus loin, forcément avec les emails, souvent ça permet de vous maintenir au courant de nouveaux épisodes évidemment, mais aussi de vous parler d'autres sujets que j'aborde pas forcément ici, et d'aller parfois plus avec des liens en profondeur sur des méthodes, etc. Merci beaucoup pour ton attention, j'espère que ça t'a plu, et surtout n'oublie jamais que ta vie est ce que tu en fais.